Bonjour à tous. Nous poursuivons cette série de témoignages que nous constituons comme ça au fil des conférences sur Manitou. Témoignages donc sur la personne, le maître et l'enseignement de Manitou. Et nous interrogeons donc ses élèves, ses principaux élèves que nous recevons. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec le Rav Uri Cherki. Bonjour.
Bonjour. Shalom.
Je pose la question que je pose à tout le monde au début, c'est-à-dire à partir de quand? Quand est-ce que vous avez pour la première fois rencontré Manitou et pu profiter déjà de cette présence?
Oui, disons que ma rencontre avec Manitou date d'à peu près 100 ans, étant donné que nous sommes liés par nos familles depuis plusieurs générations. Mon grand-père était un ami personnel du grand rabbin David Ashkenazi, le père de Manitou, qui finalement est devenu grand rabbin d'Algérie. Le premier grand rabbin séfarade d'Algérie et le dernier des grands rabbins d'Algérie. Quand Manitou, dans sa jeunesse, étudiait à Alger, il passait ses repas avec mon père dans la maison de mes grands-parents. Et puis moi, j'ai eu le mérite également d'étudier chez Manitou. Donc ça fait, on peut dire que c'est quelque chose qui a des racines assez lointaines. Ça revient, si vous voulez, à l'Algérie, mais encore plus loin que ça. Ça revient un peu à la tradition séfarade à laquelle Manitou était attaché très fortement, et en particulier à la branche kabbalistique qui n'était pas celle de... Je rentre un peu dans des détails, mais vous savez qu'à Oran, il y avait une tradition kabbalistique, tandis qu'à Alger, il y avait une tradition rationaliste. Et dans ce mélange des deux familles, on peut dire qu'il y avait cette rencontre entre le rationalisme et la kabbale. Et c'est un peu ce qui a été véhiculé dans notre famille.
Par parenthèse sur la kabbale, on dit que Manitou est allé étudier notamment la fameuse école au Maroc.
Oui, ça, oui, absolument. Il a été pendant quelques mois...
où il y avait la continuation d'une vraie tradition.
Oui, une tradition kabbalistique d'ailleurs différente de celle de la Kabbalah lourianique de Safed. Il y avait une tradition qui était restée depuis les débuts du Moyen-Âge, qui était déjà là-bas.
Alors donc, cette première rencontre avec Manitou, vous aviez quel âge?
Eh bien, j'avais 11 ans. Ça s'est passé lorsque je faisais du tourisme en Israël. On était venu avec la famille passer les vacances.
Donc vous étiez déjà en France depuis 61, c'est ça?
Exactement. Et Manitou avait déjà fait son aliya.
Donc là, on est en 68.
69 à peu
69,
près.
Et vous êtes venu en vacances en Israël?
En Israël. Et nous avons rencontré donc Manitou. Et c'était donc pour moi la première rencontre. On m'a dit, voilà, tu sais, ça c'est Léon Ashkenazi. Alors ma mère dit, oui, mais dis-lui Manitou, il connaît mieux. et on a gardé contact, surtout que quand j'ai pris mon aliyah à l'âge de 13 ans. Alors j'ai commencé à entendre parler de Manitou autour de moi. Mon frère avait déjà commencé à étudier très intensément chez Manitou. Et à partir de l'âge de 17 ans à peu près, j'ai suivi régulièrement des cours que donnait Manitou pour des élèves de yeshiva dont je faisais partie.
Voilà. Donc ces cours, c'était des cours hebdomadaires ou c'était des cours quotidiens dans une...
C'était des cours hebdomadaires.
Dans son institut à lui, alors à ce moment-là.
Non, pas toujours. Non. C'était parfois dans un appartement privé à proximité de la yeshiva. Je connaissais également la famille de Manitou, on habitait le même quartier, donc on se voyait souvent, on se rencontrait pour les fêtes.
Alors qu'est-ce qui le caractérisait d'abord, de prime abord, dans son enseignement, dans sa façon de transmettre?
Bon, ben, je suppose que vous devez savoir.
Mais c'est bien d'avoir un témoignage direct.
Bon, Manitou était captivant. Il était captivant dans le sens qu'il était étonnant. Il disait des choses qui, a priori, semblaient très simples. Et puis, à partir de ces choses simples, il arrivait à des choses très élevées. Et c'est très différent de nombreux maîtres qui, quand ils parlent de choses élevées, emploient un vocabulaire inaccessible, seulement connaissable par les connaisseurs. Tandis que chez Manitou, il parlait la langue de tout le monde. Et cette langue de tout le monde faisait reluire des réalités métaphysiques quasiment. Et en plus, il parlait pour tout le monde à la fois. Si le public était disparate, en fait, il avait un génie qui lui permettait de transmettre quelque chose de valable pour tous les niveaux d'auditeurs.
Comment on explique ça? Parce que, effectivement, on dit parfois ça des grands maîtres.
Oui.
Ils parlent à 100 personnes et chacun reçoit ce qui lui convient ou ce qui lui est particulier. Comment on explique ça, en fait?
C'est tout à fait normal, étant donné que, comme disait Manitou, ce n'est pas soi qui parle. Manitou voulait, ce qu'il était d'ailleurs, un transmetteur d'une tradition. Or, cette tradition passe à travers la personne. Ce n'est pas lui, donc, qui parle, c'est cette tradition qui parle à travers lui. Et comme cette tradition est faite pour tout l'ensemble du peuple d'Israël, pour tout un ensemble extrêmement varié de personnalités, eh bien, il est normal que chacun ressente cette parole dans son authenticité la plus profonde, la plus primordiale.
Et alors, ce qui caractérisait son enseignement sur le fond, est-ce que c'était le côté sioniste, sur lequel on a beaucoup insisté, ou le côté kabbaliste, ou le côté simplement traditionnel? Est-ce qu'on peut le mettre dans une catégorie?
Eh bien, disons que Manitou ne parlait pas des choses, il disait la chose. C'est-à-dire, souvent, par exemple, quand on parle d'un sujet, alors on sent parfois que l'orateur est à côté du sujet. Il le contemple de l'extérieur. Il nous amène à le regarder nous aussi. Tandis que Manitou ne parlait pas du sujet dont il parlait, il transmettait le sujet lui-même. Et on peut dire que c'est ça qui était très fort. Et je pense que c'est la note principale que j'ai pu retenir de Manitou. Et après, bon, évidemment, le contenu était, comme vous l'avez si bien dit, sioniste, Torah, universel.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cette façon de parler, de ne pas parler d'un sujet, mais de dire le sujet lui-même?
Ben oui, c'est très simple. Disons, si vous voulez un petit exemple, quand il est question dans le texte de la Torah des différents noms de Dieu, par exemple, quand on dit, vous avez le Shema Paya, le tétragramme Hachem, et vous avez Elohim qui est la Midat Hadin. Alors, un orateur habituel vous dira, Dieu en tant que Midat Hadin se révèle de telle manière, et en tant que Midat Arachami se révèle d'une autre manière, tandis que Manitou parlera des relations, on peut dire, au sein de la divinité entre Hachem et Elohim. Mm. Comme s'il y était. Voilà, c'est ça. Et donc, il vous invite à rentrer dedans, à rentrer dans le sujet.
Et ça prenait formellement une façon très, j'allais dire, simple de parler, vous l'avez dit, mais aussi beaucoup d'humour et presque sur le mode de la conversation.
Oui, disons que on pourrait presque dire que Manitou était prêt à vendre son âme pour faire un jeu de mots. Je me rappelle très bien quand il avait parlé une fois de l'appel de la tradition à des éléments étrangers. Donc même pour construire le temple de Jérusalem, on avait fait appel à Hiram, qui était un architecte phénicien, donc un Libanais, c'était donc le Libanais à Mikdash, ce qui veut dire en hébreu, sur le Mikdash sera construit, le temple sera construit.
Oui. Et ce jeu de mots, bon...
Parfois, d'ailleurs, ça lui sortait sans faire attention, et on a retrouvé dans des manuscrits un petit mot comme ça, à l'heure de Mincha, laté fila.
Laté fila.
Oui, ce qui veut dire la prière.
Voilà. Ravori Cherki, finalement, ça a aussi une importance, cette façon de jouer avec les mots, c'est pas uniquement formel.
Ah non, c'est pas simplement un jeu, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Vous savez que un des dangers de la pensée prophétique, c'est de se rationaliser. Et quand une pensée se rationalise, elle devient sérieuse. Elle est donc incapable d'ouverture. Donc le sens de l'humour que Manitou entretenait n'était pas simplement un élément pédagogique, il faisait partie du contenu même de son enseignement. Il voulait ouvrir les consciences à ce qui les dépasse, ce qui les transcende, si vous voulez.
Vous parlez de tradition prophétique, ça veut dire qu'on peut considérer, bien qu'il n'y ait plus de prophète aujourd'hui,
oui, il y a
qu'il
plus
avait
de prophète.
Une tradition.
D'ailleurs, ce que disait Manitou, c'est que pour comprendre ce que c'est que la prophétie, il faut d'abord savoir que ça n'existe pas aujourd'hui. Mmh. Et sinon, on confond ça avec de la mystique ou des inspirations, etc. Ce que voulait dire Manitou, c'est que la tradition kabbalistique, c'est le résidu de l'inspiration prophétique. Cette inspiration prophétique a cessé, et comme disait, la voix s'étume et l'écho continue.
Et donc, il s'inscrivait dans cet écho-là, et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est ça qui passait à travers lui et qui permettait
évidemment,
à chacun de prendre
évidemment
ce qui lui convenait. Est-ce que, par la suite, donc j'imagine que vous l'avez mieux connu personnellement, quelle personne était-il quand on était,
il était pas toujours
proche
facile.
De lui.
Il n'était pas toujours facile. Il était très sympathique et parfois il avait ses moments de rigueur, parfois même de colère. Les colères étaient, je peux dire, en général justifiées.
Qu'est-ce qui le mettait en colère, par exemple?
Ce qui le mettait en colère, c'est quand il y avait une remise en question des fondements de l'identité d'Israël, évidemment. Quand on portait atteinte à Eretz Israël, quand on portait atteinte à l'intégrité du peuple, à l'intégrité de la Torah, c'était ses points forts.
Mais il était aussi très ouvert. Par exemple, bon, on sait qu'à Orsay, Par exemple, il a été contesté par certains orthodoxes en disant il y a des femmes, il y a des hommes, etc. En même temps, il était aussi dans ce message universaliste du judaïsme. Oui. Il n'était pas forcément toujours bien vu du milieu orthodoxe au
oui,
sens
mais
propre.
Le problème est de savoir, est-ce que nous parlons ici de milieu, ou bien est-ce que nous parlons ici de Torah ? C'est-à-dire, quand vous parlez d'orthodoxie, il faut faire la différence entre le contenu fondamental de la Torah, dont Manitou ne s'écartait pas d'un iota, et de la manière dont c'est perçu dans certains cercles sociologiques. Et ça, Manitou était très critique justement par rapport à ces cercles. Il se savait dépositaire d'une intériorité que ces cercles n'avaient pas. Et donc, il n'avait pas peur de leur réaction. Maintenant, pour ce qui est de la mixité, vous savez que c'était considéré comme un élément pédagogique très important. C'est ça qui a sauvé le judaïsme d'après-guerre en France. D'ailleurs, vous connaissez probablement cette histoire, quand il a été voir le rabbin Munk après la guerre, il disait, voilà, je donne des cours mixtes, si vous me dites d'arrêter, j'arrête. Mais sachez ce qui est en jeu. Et le rabbin Munk lui a dit, revenez me voir dans 3 jours. Et Manitou est venu 3 jours plus tard, et le rabbin Munk lui dit, vous pouvez le faire à une condition, c'est de réussir.
Et vous êtes arrivé, vous, d'avoir des différends avec lui ou
oui, disons, en général mineur. Oui, c'est-à-dire, je pense que si on est véritablement élève et qu'on n'est pas simplement un chassid, c'est quelqu'un qui suit inconditionnellement, alors on ne peut pas être la réplique de son maître. Il est absolument impensable, justement, qu'on répète, on devient un perroquet. Or, Manitou n'aimait pas les perroquets, je ne crois pas. Mais il voulait avoir des élèves. Et un élève est celui qui, à travers lequel, ce qui est passé à travers le maître, continue à passer à travers le disciple.
Et vous avez été, finalement, son élève, et puis après, son ami jusqu'à sa mort.
Oui, effectivement.
Vous avez suivi son enseignement. Comment il a évolué depuis qu'il était en Israël? Vous avez senti que lui-même changeait de position?
Sans aucun doute. Disons que ce qu'on peut considérer, c'est qu'à peu près tous les 3 ans, 4 ans à peu près, Manitou disait la même chose, mais autrement. Et que si vous voulez, c'est comme du vin qui se bonifie avec le temps. Et il y a eu des moments où il a dû avoir des prises de position contre certains de ses élèves qu'il avait bien connus, mais avec qui il avait des différends. Et finalement, Manitou était très inquiet à la fin de sa vie de l'évolution politique, justement, de l'État d'Israël, les accords d'Oslo et tout ce que ça représentait. Et finalement, dans les derniers temps, il y a eu un revirement de confiance et d'espérance dans ce qui allait se passer dans les années à venir. Je me rappelle très bien de sa dernière conférence publique dans laquelle il a expliqué que, en fait, il faut se comporter à la manière de Jacob quand il va rencontrer Ésaü, qu'il doit être capable de faire à la fois la paix, la prière et la guerre. Et ici, on n'est pas capable de faire les trois, on ne peut pas réussir.
Et vous pensez que maintenant, il aurait été plutôt rassuré de ce qui...
Écoutez, je pense que pour savoir ce que pense un grand homme, on ne peut jamais savoir ce qu'il aurait pensé si. C'est-à-dire, à mon avis, c'est rapetisser la stature d'un personnage de dire « Ah, s'il était là, il aurait dit comme ça. »
Et vous avez l'impression qu'à la fin, il s'était... pas radicalisé, mais en tout cas qu'il s'était droitisé, peut-être, au sens politique du terme.
Pourquoi vous vous dites que la droite, ce serait radical? Manitou a toujours été profondément universel et profondément enraciné. Or, justement, c'est ça la grandeur d'un personnage qui est capable de faire une synthèse véritable entre des valeurs qui, pour des gens plus petits que lui, sont contradictoires. Mais on peut dire que chez Manitou, justement, l'enracinement dans l'identité nationale d'Israël, c'est ça qui permet l'universel.
Et on l'a vu avec notamment jusqu'au bout la continuation de ses voyages, de ses intérêts pour l'Afrique.
Oui, bien sûr. Il espérait justement un rayonnement universel. Il pensait même pouvoir influencer une transformation intérieure du christianisme et même de l'islam. Il était hésitant par rapport à une entreprise, d'ailleurs, que j'ai continué sous son impulsion, d'une certaine manière, le noachisme. Il était conscient de l'échec du noachisme au temps d'Aimé Pallière et jusqu'à son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il aurait été très heureux, justement, de voir que ce mouvement commence à réussir, justement.
Grâce à vous et grâce à son
entre autres,
qui est passé, est passé par vous. Est-ce qu'à un moment donné... il a eu une importance, dernière question un peu plus personnelle, une importance capitale dans votre existence, à un moment donné où vous deviez prendre une décision?
Eh bien, disons qu'à chaque fois que je me suis posé des questions fondamentales, sur des vérités fondamentales, j'allais voir Manitou, et c'est là que je trouvais des réponses.
Merci beaucoup, Mme Cherki, pour avoir Shalom. Accepté ce témoignage.